Non, je fais de l'asthme, puis j'ai de la misère à respirer.
T'as même pas besoin de t'expliquer.
Si j'ai eu un accident de moto, puis j'ai perdu mes oreilles.
T'as même pas besoin de t'expliquer.
J'ai plus d'oreilles,
là. C'est vrai que même si t'en perds rien qu'une, t'es top.
Mais...
ouais, c'est ça, si tu perds juste une oreille.
En même temps, tu peux toujours la mettre. Tu peux te mettre sur le bras aussi.
Ouais.
Je l'ai, mon masque.
Ouais, j'ai un masque.
Penses-tu que ça s'aillera pas de même?
C'est vrai, ils n'ont pas dit exactement où il fallait porter le masque.
Oh non!
Quel secteur doit-il
commence
couvrir?
Commence pas à donner des idées aux gestes.
Non, mais tu sais, c'est besoin, je un avocat de moi-même. C'est imaginatif pour ça.
On se mène du lundi au jeudi de 15h à 18h.
On a vu Castor, Mélile, Pit Caribou, Alpha, Noctem, Lasso.
Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie? Ou...
ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand.
Non, casse-toi pas la tête. Là. Va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintante. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas.
Pis quand je peux apprendre?
Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux.
Ouais! Quand tu veux!
Ah, vous avez raison, la place c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintemps. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages.
Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des galeries Chagnon. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison. Au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash, vive Pat Smoke Meats!
Yeah, this is Moondika. And anyone who knows Tyrone Scott from Glen Park, that dirty dick fool gave me the clap. I'm gonna get you, Tyrone.
CJMD 96.9, Lévis.
This is Fumanti calling from the pig pen. Julio, your voice is so sexy.
CJMD 96.9, Lévis.
Radio Los Santos!
On est au Real Talk avec Nicolas Ray et Kevin Filion. Salut Kevin, comment ça va?
Ça va bien toi, Jeff?
Ça va super bien. Écoute, on reprend nos chroniques hebdomadaires avec Nicolas. Comment ça va, Nicolas?
Ça va très bien, toi?
Ça va super bien. Écoute, il y a eu plusieurs changements dans les dernières semaines, derniers mois, dont la SCHL là, qui ont donné des nouvelles normes ou ce qui viennent restreindre un peu plus l'accès à la propriété ou la qualification des investisseurs acheteurs potentiels. De quelle façon que tu perçois ça?
Ben, en fait, il y a surtout deux choses majeures qui sont arrivées. C'est que dans le marché résidentiel, il y a eu une augmentation des critères, un resserrement, si on veut, des critères nécessaires pour être capable d'aller chercher un prêt assuré avec la SCHL. Fait que c'est sûr que ça affecte négativement l'accès à la propriété. Là. Mais l'autre chose, la chose dont moi je suis plus, dans laquelle je baigne plus, c'est vraiment au niveau de l'investissement immobilier multilogement. La SCHL, maintenant, a décidé de délimiter les refinancements. Et ce que ça a comme effet, c'est que, tu sais, comprendra que quand tu achètes un immeuble à revenu, un bloc appartement ou un plex ou peu importe, là-dessus, tu mets une mise de fonds, puis là, tu as une hypothèque. Fait que disons que tu as une hypothèque de 750 000 sur un immeuble d'un million. Disons que dans 5 ans ou dans 10 ans, on va dire dans 5 ans, sur ton hypothèque de 750 000, il en reste peut-être 600 000 d'hypothèque. Fait que tu as eu ce qu'on appelle 150 000 $ de capitalisation. La SCHL, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient dire que tu peux pas juste refinancer parce que dans 5 ans, ton immeuble, si elle vaut 1 million, techniquement, tu devrais être capable de ressortir cet argent-là, la capitalisation et même une partie de ton équité initiale. Si l'immeuble a pris encore plus de valeur, bon, mais là, normalement, tu devrais pouvoir sortir ta capitalisation des 5 dernières années. Également, dans bien des cas, toute la mise de fonds que tu as mis, donc toute l'équité, ce qu'on appelle un retrait d'équité finalement. Et encore là, ben, il va encore te rester de l'équité dans l'immeuble, étant donné que le financement ne va jamais jusqu'à 100%. Là, c'est toujours jusqu'à un maximum 75 à 85%. Fait que ça fait en sorte que là, la SHL se sont dit, avec la crise économique qui est arrivée, avec la crise du COVID, en fait, plus la crise sanitaire qui est économique, qui a eu des impacts économiques, se sont rendus compte que quand même depuis un bon bout de temps, les gens faisaient ça, les gens faisaient des retraits d'équité, donc ils refinançaient sur les nouvelles valeurs pour sortir de l'argent. Puis tu sais, on connaît tout un peu l'histoire, là, on a peut-être un oncle ou un voisin ou quelqu'un qu'on connaît qui a financé un de ses immeubles pour aller s'acheter une maison en Floride, puis un gros bateau sur le canal à Fort Lauderdale, puis la vie est belle, tu sais, ou un bateau de pêche, ou un camp de chasse, ou des choses comme ça. Et là, de plus en plus, on voyait des gens faire ça, mais pour réinjecter des fonds dans leur business. Et là, avec le COVID, toute cette histoire-là, bien, les entreprises qui ont eu de la misère, bien, il y a des gens qui ont commencé à refinancer leurs immeubles, refaire leur retrait d'équité, pour aller réinjecter du capital dans leur entreprise opérante. Tu sais, exemple, je sais pas, tu as un resto en plus, ou tu as un magasin, où il y avait une perte de revenus, fait qu'ils se refinancent pour venir pallier leur perte de revenus, leur perte de salaire. Et là, la CHL n'a pas... C'est sûr qu'ils n'aiment pas ça, parce que ça vient créer un certain risque, parce que, tu sais, ils augmentent le taux d'endettement sur l'immeuble. L'immeuble est normalement capable d'en prendre, parce que l'immeuble génère des revenus et tout ça. Mais ça démontre quand même que l'emprunteur, l'investisseur qui est propriétaire de l'immeuble, est dans une mauvaise situation financière. Et c'est là que ça vient augmenter le risque. Donc, la CHL, ce qu'elle a dit, c'est qu'on ne veut plus permettre aux propriétaires d'immeubles de refinancer, de faire des retraits d'équité, de ressortir de l'argent pour aller faire n'importe quoi. Donc, on va limiter ça, on va mettre en place des balises qui vont faire en sorte que si tu veux faire un retrait d'équité, si tu veux faire un refinancement et que l'argent va servir, par exemple, à repayer un prêteur privé parce que tu as fait des rénaux sur l'immeuble, ou repayer la balance de prix de vente parce que le vendeur t'a financé une partie de l'achat quand tu l'as acheté. Tu veux racheter un actionnaire qui t'a aidé à acheter le bloc, puis là, lui est tanné, tu veux le racheter avec l'argent qui est disponible du refinancement, c'est correct. Par contre, si tu veux prendre cet argent-là puis le réinjecter dans un autre business, dans une maison, dans un chalet, dans une maison dans le sud, dans un bateau, dans un char, dans d'autres types de placements, ça ne marche pas. La CHL, elle ne te permettra pas de le faire. Donc, elle va retenir les fonds. Si tu veux repayer ton... Disons que tu as un investisseur, mettons qui est embarqué avec toi, qui a acheté un bloc, il y avait 100 000 de mise de fonds à mettre, tu as un partner qui a mis 100 000, puis là, vous êtes 50-50, mais, tu sais, dans le fond, c'est entendu que le 100 000 va être repayé dès que possible avec, mettons, un rendement de 8 %, ce qu'on appelle des actions privilégiées, puis le partenaire détient quand même 50 %. Mais dans ce cas-là, tu ne peux pas refinancer, repayer le 100 000 plus 8 % à ton investisseur, puis le garder à 50 % dans l'entreprise. S'il reste dans l'entreprise, il ne peut pas faire un retrait d'équité. Fait que ça vient changer pas mal les structures de partenariat en immobilier, parce qu'il y en a. C'était pas mal une des méthodes les plus préférées des investisseurs de le structurer. C'est que le gars qui mettait ou la fille qui mettait la mise de fonds avait un rendement préférentiel là-dessus et une seniorité, si on veut, dans le stack de capital, qui faisait qu'au refinancement, il ressortait sa mise de fonds plus un rendement, mais qui gardait quand même des parts dans l'immeuble, tu sais. Alors que là, la CHL dit, ben, si tu veux repayer son équité, donc sa mise de fonds plus son rendement, ben, c'est correct, mais il faut que tu sortes complètement du partenariat, du partnership. Fait que ça vient vraiment comme compliquer les choses. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Écoute, rendu là, c'est une discussion philosophique du pourquoi de la CHL et tout ça. Eux, ce qu'ils disent, c'est que leur travail, c'est pas d'enrichir les investisseurs, c'est pas de supporter la spéculation immobilière. Maintenant, écoute, est-ce que c'est une bonne affaire? Je sais pas, honnêtement. Seulement le temps pourra nous le dire. Oui.
Puis est-ce que c'est une affaire finale? Hein? Est-ce que c'est une bombe lancée pour après ça?
T'sais? Pour d'autres choses, pour d'autres étapes.
Ouais, ou juste finalement rabaisser tous ces critères-là tranquillement.
C'est clair qu'il y a une certaine préparation de resserrement de crédit qui est là. On le voit dans les cycles économiques, là, éventuellement, quand on arrive vers la fin d'un cycle, il y a du resserrement de crédit. On l'a vu avec le COVID accéléré. Mais c'est sûr que c'est des signes avant-coureurs. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est la bonne chose à faire. Je pense que tu veux t'assurer que tes investisseurs immobiliers dans la société restent liquides, puis qu'ils soient incitatifs à continuer à
réinjecter l'argent.
À réinjecter de l'argent, à vouloir s'enrichir, à vouloir investir l'immobilier. Parce que si l'immobilier ne devient plus intéressant pour un investisseur, ben, on va avoir un méchant problème. Parce que, tu sais, on parle d'une crise du logement présentement, surtout à Montréal, par exemple. De rendre la vie plus dure aux investisseurs immobiliers, là, ça va seulement accentuer la crise du logement. Parce que le logement au Canada est privé. Fait que si tu viens enlever des incitatifs économiques et que tu mets des bâtons dans les roues des investisseurs immobiliers, mais c'est qui va construire des immeubles? C'est qui va entretenir des immeubles pour les gens qui ont besoin d'un endroit pour vivre parce qu'ils sont pas capables d'être propriétaires? La réponse, c'est personne.
Puis en plus de ça, avec le resserrement qu'il y a eu aussi au niveau résidentiel, vient augmenter peut-être encore plus la difficulté de l'accès au logement, parce que tu sais, à la propriété, parce que là, ils vont avoir peut-être plus de difficultés à se qualifier pour avoir un emprunt pour une maison. Fait qu'ils vont être obligés de rester en logement. Puis ça va juste accentuer ça aussi.
C'est ça qui est curieux, tu sais, c'est que dans les deux... Dans les deux mesures, t'as une mesure un peu, tu sais, puis je pense que ce que la Seychelles font, c'est qu'ils veulent réduire le risque dans leur livre, premièrement, avec la mesure face aux investisseurs multilogements. Ils se disent que ça va encourager les investisseurs à réinvestir plus dans d'autres immeubles. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas considéré que beaucoup d'investisseurs ont des investisseurs eux-mêmes dans leurs affaires. Et là, ça vient d'enlever... les incitatifs et de mettre des bâtons dans les roues pour être capable de lever du capital quand tu es un promoteur immobilier pour continuer à faire plus de projets. Puis de l'autre bord, mais dans le résidentiel, ils viennent augmenter, ils viennent réduire l'accès à la propriété. Donc, ils vont mettre une pression, à toute chose étant égale, sur la demande au niveau du parc locatif. Là. Fait que, c'est des drôles de mesures. Des fois, on peut se poser des questions sur à quel point que nos politiciens, nos élus et les gens au paragouvernemental ont réellement réfléchi ou est-ce qu'ils comprennent réellement les enjeux sur le terrain. Dans ce cas-ci, je ne suis pas convaincu.
Parce que dans le multilogement, toi, tu disais, bon, on sait que si c'est pour racheter un autre immeuble, c'est correct, c'est autorisé. Mais moi, mettons, dernièrement, je parlais avec un courtier hypothécaire pour un dossier, puis il me disait, par contre, dans la mécanique de comment ça va se passer, ça va être un peu rochant parce que t'as faut que tu aies une offre d'achat sur un prochain.
C'est ça, exact.
Mais là, si l'offre tombe, tu es en train de... À un moment donné, ça va être la poule avant l'œuf. Ça va être un peu fou à gérer, donner ta preuve de promesse d'achat, mais que ta preuve de mise de fonds de cette promesse-là, c'est l'autre pour lequel ça te prend, là, à un moment donné.
C'est sûr que moi, je crois pas à l'intervention trop profonde d'un gouvernement. C'est mes croyances plus, si on veut, de société ou de politique, si on veut. Là. Fait que c'est sûr que j'ai un peu de misère quand je vois une institution... paragouvernemental, venir essayer de contrôler ou de dicter davantage ce que nous, les investisseurs privés, on fait avec nos actifs et avec nos investissements. Et, comme tu viens de le dire, ça a l'air un peu broche à foin, leur affaire. Là. T'sais, je ne sais pas s'ils ont vraiment pensé à l'opérationnel et tout ça, là, comment que ça va fonctionner. Là. Parce que là, l'argent va dans le fidécommis, puis là, ça te prend une promesse d'achat, puis là, si la promesse
tombe,
qu'est-ce qui se passe avec le refinancement, c'est ça. Puis comme je disais, si ça devient plus difficile pour toi, Kevin, d'amener des partenaires financiers dans tes projets, ben, tu vas juste faire moins de projets, tu vas faire moins d'optimisation, donc moins de rénovation de logements qui ont besoin de rénovation. Ouais. Et donc, qui en souffre? Ben, le parc immobilier au niveau locatif en souffre et ultimement, les locataires en souffrent parce qu'ils ont une moins bonne offre. Et là, ben, de l'autre bord, avec le résidentiel, que là, au lieu d'avoir 600 de code de crédit, ça t'en prend 680 pour la CHL, ben là, ça veut dire que t'as quoi, peut-être, je sais pas moi, je lance des chiffres en l'air, théorique, t'as 10, 15, 20% de plus de personnes qui peuvent pas s'acheter une maison, donc qui vont rester en logement, mais t'as moins d'investisseurs qui vont vouloir investir parce qu'il y a moins d'incitatifs. J'appelle ça empirer la situation.
Il va se créer de la colocation tantôt. Et là.
Si on veut du real talk, là, on vient de foutre la merde.
Par rapport aux travaux que tu parlais, parce que c'est sûr que moi, j'ai pas eu les informations peut-être à jour, mais pour ressortir au refinancement, pour payer tes travaux, ça, de ce que tu en sais...
De ce que j'en sais à
moi,
date.
Moi, j'avais entendu l'information qu'il fallait possiblement que tes travaux soient présentés dans ton offre initiale, soient gérés un peu comme un pré-réno, puis que ça allait... aussi peut-être être compliqué de sortir ton équité pour repayer des travaux majeurs.
De ce que j'en comprends maintenant, ça semble pas être le cas. Ça semble pas être aussi compliqué. Mais maintenant, tu sais, faut comprendre que la SCHL, c'est dur en immobilier au Canada. Ouais. Surtout dans le multilogement parce qu'ils ont un monopole. Tu sais, tu as Canada Guarantee puis Genworth dans le 4 logements et moins. Mais dans le 5 logements et plus, il y a juste la SCHL. De ce que j'ai vu à date, sur le petit échantillon que j'ai eu, parce que c'est quand même assez récent, non, tu sais, exemple, si tu as financé tes travaux qu'un prêteur privé, il n'y a pas de problème dans le refinancement. Tu sais, ils sont capables de voir qu'un prêteur privé, tu justifies tes travaux, tu n'auras pas nécessairement de problème à ce niveau-là.
Puis est-ce que tu crois que ça peut ouvrir l'opportunité avec Genworth ou Canada Guaranteed pour offrir le 5 logements et plus?
Écoute, c'est une question intéressante. C'est une question que je me pose depuis un bout de temps. J'ai pas encore assez... mis d'efforts là-dedans à comprendre pourquoi que Canada Guarantee et Genworth ne font pas du 5 et plus. Là. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'en faire? Ça se peut très bien. Là. Je ne sais pas c'est quoi au niveau... Est-ce qu'il y a une limitation législative qui fait qu'ils n'ont pas le droit de le faire? Ou est-ce que c'est juste qu'ils ont décidé de ne pas le faire parce que ça venait péter trop les ratios? Parce que, tu sais...
Une question d'équité aussi, là.
Ben, c'est une question aussi d'assurabilité. T'sais. Dans le fond, un assureur comme Genworth ou Canada Guarantee, qui n'est pas backé par le gouvernement, mais qui est une entreprise privée, tu comprends que s'ils garantissent, par exemple, $1 milliard de prêt, ce qui est de la petite bière, là, dans le marché, ça a l'air beaucoup pour nous, là, mais pour eux autres, c'est de la petite bière. Mais ils doivent garder quand même un certain montant en réserve liquide dans leur livre. C'est-à-dire, si c'est 10%, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 100 millions dans le compte de banque là, en tout temps pour faire $1 milliard. Maintenant, si d'un matin, ils décident qu'ils veulent faire du multilogement, on s'entend que c'est des plus grosses propriétés, des plus gros montants assurés, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité d'eux, ou est-ce qu'ils considèrent ça trop risqué, ou est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire? Honnêtement, je ne peux pas te répondre. C'est quelque chose auquel que ça fait un bout de temps. Je me dis, je vais investir pour savoir c'est quoi la réponse à ça, mais j'ai pas eu le temps de le faire, là, où ça m'a glissé à l'esprit. Là.
Mais une chose est sûre, c'est que le financement puis le domaine d'immobilier ou tout ce qui se passe par rapport à ça évolue souvent très rapidement, oui. Puis des choses qu'on s'attendait pas du tout qui étaient arrivées dans les dernières semaines, derniers mois, qui ont des impacts quand même assez considérables. Puis je pense qu'on devra quand même toujours garder un œil sur tout ce qui va se passer pour la suite.
Ben, c'est pour ça que je pense aussi que c'est important de rester à l'affût de ce qui se passe, de s'éduquer, de se former, d'être en contrôle de ses finances, de ses mathématiques et tout ça, parce que justement, tu sais, le marché est trop changeant. Il devient de plus en plus complexe, compliqué, puis si tu ne comprends pas réellement ce que tu fais, puis pourquoi tu le fais, puis comment tu le fais, tu te fies juste à ton compte hypothécaire ou ton banquier ou à ton beau-frère ou à ton pif, malheureusement, tu vas finir par prendre beaucoup plus de risques, puis peut-être te mettre dans une mauvaise position alors que c'était pas nécessairement, ça avait pas besoin d'être le cas.
Oui, puis pour finir, puis peut-être sécuriser les gens, reste que les refinancements conventionnels, là, on a encore les mains déliées, là, tu sais, je veux dire.
Pour l'instant.
C'est ça. Fait que, tu sais, il y a encore de la marge de manœuvre au niveau des refinancements conventionnels.
Ouais.
C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Nicolas. Toujours un plaisir de te recevoir à ta chronique.
Real Talk.
Merci.
96.9, l'alternative radiophonique.
On nous accuse d'en avoir trop dit, d'avoir trop parlé, d'influencer les jeunes vers le vice, des initiés au rap. Accusé d'avoir des liens avec le milieu hip-hop, de faire en sorte que le monde écoute autre chose que leur musique pop. Pour eux, on est synonyme de danger. Ils se sentent menacés parce que notre son leur est étranger. Faudrait surtout pas se mélanger, déranger leur plat. De toute façon, tout le monde sait que c'est arrangé. Accusé de voix de fait, des régales graves sur les dirigeants de la musique au Québec, j'gage. Tu n'as rien compris de notre message, tout ce qu'ils savent c'est qu'on rage. Après, je demande pourquoi le piratage musical. Accusé de vulgarité, parce que dans nos textes, y'a trop de réalité. Dans nos chansons, pas assez de conformité. Avec tout ce qui pèse contre nous, on risque la perpétuité. T'allais trop loin, c'est devenu n'importe quoi. Quand t'ouvres la télé ou la radio, tu t'en aperçois. Le nombre d'artistes crédibles est en chute libre. Pour ceux qui sont en place, ça devient difficile de survivre. En 3 ou 4 semaines, on crée des vedettes qui servent de marionnettes pour faire grimper les recettes. C'est devenu comme une mode, sont construits sur mesure. En plus, sont faciles à remplacer après l'usure. C'est l'essence de la musique qu'on tue. Aujourd'hui, l'industrie veut faire la pièce, c'est juste ça son but. Y'a plus de place pour la différence. Tout ce qu'on veut, c'est une chance. Monsieur le juge, vous le jure, on va la prendre. Le monde réveille, y'a un problème de convergence. Fais la dope pis ça clique, pèse lourd dans la balance. J'tourne les postes de ma radio, les mêmes chansons. Chez nous y'a du talent, mais pas de place pour son expression. Fais cette phare de la musique quand j'chante. Pis de rêver, pis de rêver. Aujourd'hui on voudrait nous empêcher de profiter de ce qu'on a créé, ce qu'on a créé. L'industrie est paniquée, ils connaissent rien notre musique. Sont effrayés, sont effrayés. Pareil qu'à jamais qu'ils nous voient régner, nous voient régner. Fais cette phare de la musique quand j'chante. Puis de rêver, puis de rêver. Aujourd'hui on voudrait nous empêcher de profiter de ce qu'on a créé, ce qu'on a créé. Industries paniquées, ils connaissent bien notre musique. Sont effrayés, sont effrayés. Préfère nous voir pareil qu'à jamais qu'ils nous voient régner, nous voient régner. On est coupables pour toutes les
chef d'accusation. Avec tout ce qu'il y avait contre nous, pas surpris de la décision. Reconnu coupable d'aimer ce qu'on fait. De toute façon, on était condamné avant le début du procès. L'industrie avait trop à perdre dans l'histoire. Dans Béton de Goliath, l'issue était facile à prévoir. On est resté les mêmes, il aurait voulu qu'on tienne. Je pense qu'on était pas parce que c'est la règle, j'ai sans merde. Coupable d'être resté loyal à notre musique, à notre groupe, à nos racines, à nos familles, à notre flic. On est coupable d'entrave au travail des grandes maisons de disques. Comme si c'était eux les victimes, nous les terroristes. Tout ça parce qu'on voulait changer les choses. Que tous nos efforts mènent enfin à quelque chose. J'aurais voulu qu'on fasse quoi. On demande la clémence à court, mais on n'en regrette aucun de nos choix. Condamné à vivre dans l'underground pour l'éternité. Parce qu'on tient le rap responsable des maux de la société. Pourtant tout ce qu'on fait nous c'est de la représenter. Sans rien camoufler de la vérité, ça les rend cinglés. Mais teintés par boîte une musique pour revendiquer. On voudra pas nous autres à radio des émissions de télé. De toute façon les seules fois qu'on entend parler, c'est toujours la même chose. On présente un mauvais côté. Comment tu veux qu'on soit respecté? Quand on parle de nous on est associé à la négativité. Ok c'est vrai on a des choses à se reprocher. Mais est-ce que pour ça on mérite d'être oublié? Ils font comme si on n'avait jamais existé. Quand on veut prendre notre place, faudrait surtout pas insister. Pour faire entendre, obligé de crier. On demande une allégeance de la peine, mesdames, messieurs les jurés.
Reste à faire de la musique quand chante, puis de rêver, puis de rêver. Aujourd'hui, on voudrait nous empêcher de profiter de ce qu'on a créé, ce qu'on a créé. Les esprits paniqués, ils connaissent rien de notre musique, sont effrayés, sont effrayés. Pareil à jamais que nous voir régner, nous voir régner. Laisse d'être faire de la musique quand chante, puis de rêver, puis de rêver. Aujourd'hui on voudrait nous empêcher de profiter de ce qu'on a créé, ce qu'on a créé. Industrie paniquée, ils connaissent rien, notre musique sont effrayés.
CJMD 96.9. L'alternative radio.
C'est le temps de rénover. Toiture, porte, fenêtre, pensez DBL. Salle de bain, cuisine, sous-sol, pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Recommandé CAA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant le 418-681-2522. GroupeDBL.com.
Le bar Sport Vegas est l'endroit numéro 1 pour vous divertir. Salle de billard, jeux de dard, loterie vidéo, soirée karaoké, les meilleurs bands à Québec, toujours la meilleure musique avec le plus beau staff en ville. Le bar Sport Vegas, situé au 2340 Boulevard Sainte-Anne à Québec. 418-663-3434.
Pour vos plus belles soirées, retenez ce nom, le bar Sport Vegas.
La nouvelle gouvernance scolaire? C'est vous?
Moi? Pas certaine que c'est pour moi.
Je suis une femme d'action. J'aime quand les choses sont efficaces, modernes. Je pense que pour prendre les meilleures décisions, il faut être à l'écoute. Il faut travailler ensemble et il faut pas hésiter à innover. Surtout quand on parle de notre avenir.
Vous êtes parfaite.
Ben voyons!
La nouvelle gouvernance scolaire, c'est vous. Votre place vous attend. Visitez québec.ca/nouvelle-gouvernance-scolaire. Un message du gouvernement du Québec.
Le Bike Show Alpha Vétéran chez Prémo Harley-Davidson à Québec les 12 et 13 septembre. Sur place, massothérapie gratuite pour les vétérans, cage d'entraînement, zone familiale, compétition pour déterminer la plus belle moto et spectacle de musique métal. Visitez notre site internet alphavétéran.ca et Alpha Vétéran sur Facebook. Le Bike Show Alpha Vétéran, le 12 et 13 septembre chez Prémont Harley-Davidson.
Vous cherchez un emploi? Bimbo Canada a quelques places encore disponibles pour compléter l'équipe. Elle est à la recherche de plusieurs manœuvres à la production pour notre boulangerie Vachon à Sainte-Marie. Le salaire d'entrée est de $21.61 avec prime de quart de travail. Vous avez accès à des possibilités d'avancement, fonds de pension, accès à des assurances collectives. Venez travailler dans un environnement sécuritaire. Un service essentiel du domaine alimentaire, ouvert depuis 1923. Pour postuler en ligne, visitez notre page Bimbo Canada Carrière.
On a vu Castor, Mélile, Pit Caribou, Alpha, Noctem, Lasso.
Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie?
Ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand.
Non, quand t'as pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintanque. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas.
Pis quand je peux apprendre?
Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux.
Ouais! Quand tu veux!
Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintanque. attendre. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages.
Des milliers de personnes sont de retour au travail, parfois avec de nouvelles tâches ou dans un nouvel emploi. Dans ce contexte particulier, il est plus que jamais important pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs de bien connaître les consignes sanitaires, de les partager et de les appliquer à la lettre pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous. Nous avons tous un rôle à jouer et la CNESST est là pour soutenir les milieux de travail dans leur démarche. Pour en savoir plus, visitez cnesst.gouv.qc.ca. Un message de la CNESST.
Vous écoutez CJMD, les paupières. Grabbing everything in range. Some people wonder why. It's because we are so damn fly. L'Alternative Radio.
Bienvenue tout le monde, on est au Real Talk avec Nicolas Ray et Kevin Filion. Comment allez-vous les gars?
Ça va super
top
bien.
Shape.
Écoute, on a passé au travers la COVID, la crise sanitaire, on vit actuellement une crise financière ou un bousculement. Un bousculement, ça se dit-tu ça?
Oui.
Une bousculade,
ouais.
Aux éboulements, c'est ça?
Oui, c'est ça, exact.
Tu pensais à quelqu'un qui se faisait bousculer.
Bousculer.
Ça va, hein?
Oui, ouais, ça va bien.
On a sorti la boisson encore.
Hey, ça va
d'ailleurs, être... où est la boisson?
Une bonne chronique, celle-là.
T'en commande.
Avec tout ce qui s'est passé, on a...
Tu l'as vu durant le COVID?
Exact, on est obligé de refaire un nouveau bar.
La station de soir. Là.
Avec tout ça. Avec tout ce qui s'est passé avec le milieu commercial, on a beaucoup d'impact qui va se ressentir. Puis de quelle façon que tu perçois les différents changements qui vont se faire avec l'économie commerciale qu'il y a actuellement? Là?
Ben, je pense qu'avec ce qui s'est passé cette année, là, 2020 a été quand même une année assez particulière, on va se le dire. Là. je pense que les habitudes des gens, certainement, vont avoir tendance à changer ou ils ont déjà changé. J'ai l'impression que le COVID est venu accélérer des changements qui étaient déjà en cours. Tu sais, le télétravail, le magasinage en ligne, tu sais, on peut pas dire que ça date d'hier. Là. C'est ça. Tu sais, eBay puis Amazon, c'est pas depuis hier qu'ils existent. Fait qu'il y avait déjà quand même ces habitudes-là. Je pense que là, les gens ont réalisé à travers le COVID que il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sans être obligé nécessairement de se déplacer. Puis que ben, tout ce temps-là qui est gagné, tout cet argent-là qui est sauvé en déplacement peut être remis vers des choses qui amènent plus à nos vies. T'sais. Moi, ça m'a jamais coûté aussi peu cher d'essence. Tout le monde sait que je suis un gars de char. J'adore les chars, j'aime les chars, les gros moteurs. Ça m'a jamais coûté aussi peu d'essence. Non pas parce que l'essence... Oui, ouais,
Elle a droppé en
l'essence
plus.
A droppé, c'est clair. Là, mais moi, je mets du Supreme anyway. Là. Mais c'est vraiment parce que je prenais vraiment pas beaucoup mes chars non plus. Et d'avoir autant de temps sur nos mains... Puis là, aujourd'hui, tu vois, comme on est en déconfinement, on est sorti du COVID, puis là, il y a un paquet de choses que je me rends compte que j'ai l'habitude de faire comme « Ah, tu sais, je vais aller faire telle affaire, je vais aller chercher telle affaire. » Exemple, déposer des chèques. Moi, je dépose encore des chèques. Je vais encore en succursale déposer des chèques. Puis là, ben, durant le COVID, j'ai pas eu le choix. Là, j'ai téléchargé l'application, puis je prends une photo de mon chèque, puis je le dépose. Là. Ça m'a obligé comme à sortir de cette habitude-là parce que j'aimais ça aller déposer des chèques. Je sais pas pourquoi. Là. Tu sais, écoute, je suis un gars que jusqu'à l'année passée ou l'année d'avant, là, j'allais encore tout déposer là, au guichet avec un humain. Parce que j'étais comme ah, je me sentais. Tu sais, le premier du mois, là, je me sentais riche. Là, tu sais. Je voulais même pas faire des paiements automatisés. Là.
C'était pour le montrer à quelqu'un que t'étais riche.
Ben, le montrer à quelqu'un.
Il y a plus personne dans les caisses, c'est
pas grave. Le montrer à moi-même aussi, tu sais, comme me rappeler que c'est ça. Là, quand tu commences à enlever toutes ces petites tâches-là dans ta vie, que là, tu n'as plus besoin de te déplacer pour le faire, tu te dis, waouh, OK, je suis capable de récupérer du temps que j'avais pas finalement. Puis, ça fait en sorte que les habitudes changent. Puis, tu sais, le magasinage en ligne, moi, je suis le premier qui adore aller. Tu sais, première affaire dans laquelle que je dépense le plus d'argent dans une année, outre les voitures et les voyages et les restos. Et la boisson.
Et les cigares.
Outre ben, liste de 10.
On est quand même à Real Talk. Là,
c'est ça, on va se dire les vraies affaires.
On va se dire les vraies affaires. Mais l'endroit où que je dépense vraiment le plus d'argent, d'un point de vue argent de loisir, c'est sur les livres. Puis j'aime ça aller dans une librairie, j'aime ça aller dans un magasin de livres. C'est comme une activité. Là, puis Là, ben, j'ai comme pas eu le choix de commander sur Amazon. Puis là, j'ai comme pris goût à recevoir mon package Amazon par la poste comme le lendemain, tu sais, avec Amazon Prime. Puis là, en plus, j'ai accès à Amazon Prime gratuit sur ma TV. Là, j'ai comme plein d'émissions et tout ça. Fait que tu fais comme, ouais, ça a vraiment un effet qui peut être durable sur l'économie. On peut penser à tous les magasins. Tu sais, déjà, les magasins avaient un peu de misère à cause d'Amazon, puis eBay, il y a eu des changements. Je pense que là, ça va s'accélérer. Les restos, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui dépensent énormément d'argent en resto, qui se sont rendus compte qu'à taper, là, hey, ça me coûte bien moins cher faire de la bouffe chez nous, puis arrêter d'aller au resto autant. Fait que quand tu regardes ça d'un point de vue immobilier, c'est clair que si tu es propriétaire d'immeuble commercial en ce moment, tu dois être un petit peu nerveux. Moi, je serais nerveux là, à être à leur place. Hein. Et ça amène à la réflexion qu'il va y avoir des opportunités de redéveloppement, selon moi. Tu sais, en immobilier, comme en affaires, je pense pas que tu devrais t'en faire avec les problèmes, avec les obstacles, avec les échecs et tout ça. Le but d'être entrepreneur, d'être investisseur également, c'est t'es payé, finalement, par la quantité d'échecs, d'obstacles et de problèmes à laquelle tu fais face, puis que tu réussis à surmonter ou à trouver des solutions. Fait que tu devrais même quasiment chercher le trouble.
Chercher.
C'est ça. Tu devrais quasiment chercher le trouble. Là. Plus que tu cherches le trouble, vite, plus que si tu réussis à surmonter tout ça, ben, plus que tu vas avoir du succès et tu vas t'enrichir. Mais je pense que dans le commercial, il y a vraiment un beau redéveloppement. Moi, en ce moment, là, je me promène là, tous les centres d'achat. Pas seulement juste les gros centres d'achat, mais les petits genres de strip malls, les centres d'achat. Tu as peut-être 7-8 magasins, un à côté de l'autre en ligne, avec des gros stationnements. Moi, être investisseur immobilier en ce moment, là, ben, j'en suis un. Là, mais en fait, pour les gens qui sont investisseurs, qui sont à l'écoute, je serais vraiment en train d'essayer de voir puis de réfléchir comment tout ça, ça peut être redéveloppé en espèce de mixed use, c'est-à-dire ouais. En résidentiel commercial, ensemble, tout ça. Mettre tout ça ensemble. Les espèces de power center, il y en a un à Saint-Romuald, il y en a un à côté des cinémas à Québec. J'étais au power center de Saint-Romuald hier. Puis, en face du Walmart puis du Canadian Tire, puis c'était comme... Je me disais, j'ai dit à ma blonde, je dis, t'as-tu vu tout l'espace ici qui est gaspillé?
Ouais. Pour des causes de stationnement, souvent.
Ouais, puis pour une rangée de magasins d'un étage.
Exact.
T'es à côté des ponts, t'es à côté du métrobus, l'arrêt d'autobus est drette, là. Le pôle de Saint-Romuald est vraiment en train de se développer, il est en train de se lever verticalement. Puis tu regardes tout cet espace-là, puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens. T'as juste ça qui est dans cet espace. Tu sais, t'as si peu dans autant d'espace horizontal. D'un, je doute sur la rentabilité de cet espace-là. Je ne sais pas qui est propriétaire de ce power center-là. Sûrement un genre de REIT à la bourse de Toronto, mais ça doit pas être si rentable. Tu sais, des magasins ferment, l'achalandage est plus ou moins là. Moi, c'est tout le temps vide quand je vais dans ce power center-là. Il n'y a jamais un chat, là. Je sais pas comment...
Que... Il y a tellement de stationnement que justement, il y a du monde.
Ben, c'est ça. Peut-être que ça a l'air vide et que ça ne l'est pas, mais en tout cas, je vais au Sport Expert des fois là-bas, c'est tout le temps vide.
OK, tu parles de l'autre bord, les ouais, petits commerces.
C'est ça, il n'y a jamais un chat dans ce coin-là, là, tu sais. Fait que je me demande s'il n'y a pas un redéveloppement à faire. Puis... Quand on parle de redéveloppement, ce qui est cool en investissement immobilier, c'est que souvent on parle d'arbitrage. C'est-à-dire que si tu achètes, mettons, un power center qui vaut, je sais pas moi, 5 millions de dollars en tant que tel, la manière qu'il est fait, dans le fond, si tu peux le redévelopper, puis disons rajouter 3 étages de logements résidentiels par-dessus, mais ça se peut que la valorisation entre le 5 millions que tu as acheté, puis disons que ça te coûte un autre 5 ajouter tout ça par la construction, t'es rendu à 10, mais peut-être qu'au final, ça va en valoir 12. Ben, tu viens de faire 2 millions, là, tu sais, pour avoir fait tout ce travail-là. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités. Je pense que les 5 prochaines années, là, 5-10 prochaines années, les plus grandes opportunités en investissement immobilier, là, ça va être de redévelopper du commercial.
Fait que ça fait que les gens vont le bouder un temps, puis à un moment donné, peut-être qu'ils vont avoir un revirement de situation pour dire OK, on peut faire quelque chose avec ça. Parce que de dire que les commerces vont reprendre au même rythme,
on commence.
Même proportion, je pense pas vraiment que, que tous les loyers commerciaux vont se remplir.
Je crois pas.
Résorber, mettons.
Ces endroits-là ont déjà de la misère avec l'achalandage. Tu sais, on reparle de celui de Saint-Romuald. Il y avait un café qui est là. Il n'y a jamais marché de café. Là, il est fermé. Ils disent que c'est en rénovation, mais c'est fermé. Là. Je veux dire. En tout cas, j'ai vu des affaires passer, c'est fermé, ce café-là, pour l'instant. Mais en même temps, tu vas pas là. Tu vas là pour aller chercher des cossins. Fait que,
mais c'est un hit and run.
Le concept d'urbanisme de mixité qui est important. T'sais, de plus en plus, les villes veulent aller vers ça. Imagine si dans ce power center-là, par-dessus le Sport Expert, tu as 4 étages d'immeubles résidentiels, puis l'autre immeuble en face, là, avec le team maternité, puis la place pour les affaires de cuisine, Carter, tout ça, tu lèves un autre 4 étages-là, mettons, je sais pas, tu fais un total de 100 logements, où, là-dessus, il y a de l'espace en masse pour le faire, là. Même, je pense que tu pourrais faire plus que 4 étages, parce que du 7-8 étages un peu plus loin, tu viens apporter, tu sais, 100, 150, 200, 300 familles, on va dire des ménages, parce que, tu sais, il y a des gens plus âgés là-dedans que la famille est déjà faite. Tu viens apporter une couple de centaines de ménages dans le coin que là, ils habitent, là.
Mais ton café, captive,
là, ton café, là, il va être en bien meilleure santé. Ton propriétaire du café va plus facilement pouvoir payer le loyer commercial et continuer à se faire augmenter d'année en année parce qu'il y a une meilleure business, les magasins également. Donc, il y a une espèce de synergie puis une fusion qui vient se créer dans la valorisation au niveau de ce type d'immobilier-là.
Je pense que ça peut devenir le acheter local, mais micro, tu sais.
Ben oui,
t'achètes local, c'est-à-dire vraiment
c'est
dans clair. Ta rue puis ton genre de...
Puis la personne qui détient en ce moment le Power Center, c'est peut-être un mauvais exemple, le Power Center, parce que je crois qu'il est détenu par une institution boursière. Mais mettons, prends un petit centre d'achat quelque part qui est détenu par Pierre-Jean-Jacques, qui est en fin de carrière d'investisseur, que c'est à moitié vide. Tu sais, tu ramasses ça pour exprès, tu redéveloppes. Il y a un bel arbitrage à faire, il y a une belle création de valeur.
Mais il va falloir quand même qu'il y ait une volonté municipale aussi à vouloir changer zonage, s'assurer de pouvoir densifier dans ces secteurs-là, etc. Puis la plus grande problématique qu'on va avoir à vivre avec ça, ça va être de respecter les cases de stationnement.
Ouais.
Puis là, de revenir à mettre du stationnement souterrain avec l'existant. Ça devient un peu compliqué puis un peu pas mal plus onéreux aussi. Là.
C'est clair. Fait que c'est pour ça aussi, tu sais, ça c'est des manières de faire en premier, c'est que commence par regarder les endroits où que la ville a une volonté de densification.
Exact.
Puis fait le tour. Tu sais, les gens me demandent des fois, les gens se compliquent la vie là, à investir dans l'immobilier, comment qu'on fait, puis ça. Puis des fois, c'est aussi simple que. Mais tu sais, va donc voir où est-ce que la ville veut densifier, où est-ce que la ville veut valoriser le secteur.
Pas des secrets, là.
Puis c'est pas des secrets,
la
là.
La ville vont te le dire.
Mais non, puis va te promener en char, puis va te promener à pied l'après-midi de temps, là. Puis fais le tour, puis regarde. Tu vois une maison toute défaite, qui est toute petite, qui est mal entretenue, OK? Bien, dans un secteur où que la ville veut visiblement revitaliser, bien, il y a peut-être un coût à faire à dire, tu peux l'acheter pour pas cher, tu peux le redévelopper. Tu vois un petit strip mall, là, tu sais, un centre d'achat linéaire, tu sais. Tu vois qu'il est dans une zone où que la ville veut redévelopper. Un crime, c'est, t'as peut-être trouvé ton opportunité, t'as peut-être trouvé ton deal, là. Puis t'es pas obligé nécessairement de le faire, là. Peut-être que tu peux juste comme leur passer à poc à quelqu'un qui se spécialise là-dedans aussi, là.
Puis au niveau commercial aussi, moi je pense qu'il va y avoir un changement qui va se faire aussi où ce que les individus, les professionnels, les propriétaires de commerce vont devenir des conseillers. Mm-hmm. Puis l'inventaire va pas être sur place, va être en ligne, va être dans des entrepôts, dans des warehouses. Puis ils vont seulement être là pour te conseiller sur qu'est-ce que tu as besoin. Le pied carré sera plus nécessaire d'avoir un 20 000 pieds carrés, mais plusieurs petits commerces à 1 000 pieds carrés, 2 000 pieds carrés peuvent devenir suffisants.
Puis le concept, c'est que si tu as du résidentiel avec une mixité commerciale, ben, ça fait en sorte aussi que tes commerces n'ont pas besoin de se battre autant et dépenser autant pour attirer le monde à venir chez eux.
Son local.
C'est ça. Tu sais, c'est vraiment le Power Center, là, je veux dire. C'est un détour, elle est là. Pour n'importe qui de la Rive-Sud, c'est un détour, elle est là. Ça,
c'est tu te fais driver par un gros achat, mettons.
Ben, c'est ça.
T'as sorti chez Walmart, puis si les autres...
Ah, ben là, je vais y aller à l'autre place, ouais, c'est ça.
Mais tu vas pas pour aucun des petits... Non. Jusque-là.
Puis on n'a pas, ben, moi je trouve que c'est un peu tiré des États-Unis avec les athlètes, etc., là. Sauf qu'on n'a pas cette clientèle-là. On n'a pas le mœurs de ça aussi.
Non, puis on n'a pas la population. Puis même aux États-Unis, les outlets commencent à se faire développer. Tu sais, j'ai été conférencier à Orlando, en Floride, là, qui est une grosse ville. Là. Puis tu sais, la ville, eux, tu sais, le directeur de l'urbanisme de la ville était en conférence en même temps que moi. Puis on s'est parlé beaucoup de ça, moi puis lui. Il s'appelle Jim. Puis tu sais, eux, ce qu'ils veulent que les investisseurs de là-bas fassent, c'est qu'ils rachètent, tu sais, genre le bureau en gros, là, qui a un immense stationnement de pour 800 chars, puis qu'il n'y a plus jamais plus que 30 chars qui est là, ben ils veulent que quelqu'un rachète ça, puis le redéveloppe. Puis ils veulent plus voir des gros stationnements sur leurs artères majeures. Tu sais, t'es sur une rue majeure, mettons, on va dire, ici à Lévis, là, le boulevard de la Rive-Sud.
Guillaume Couture,
excuse-moi, là, je suis un vieux de la vieille. Guillaume Couture, là.
Sors pas la 132, là.
Ça, c'est passé l'Ozon.
Ouais, la 2, ouais.
Ça, c'est passé l'Ozon, c'est la 132, là, quand ça va à Beaumont, là.
Ouais.
Puis, mais tu sais, prends le boulevard, on prend Guillaume Couture. La vérité, c'est que d'un, quand tu es sur Guillaume Couture, il y a beaucoup, beaucoup de stationnements. Mais les endroits aux États-Unis, sur des routes majeures comme ça, là, c'est juste des immenses stationnements. Fait que ce que la ville a dit, c'est que on veut que vous construisez par-dessus ces stationnements-là, puis on veut plus être sur une artère majeure, puis juste voir du parking vide. C'est plus ça qu'on veut voir. Je pense que, tu sais, de plus en plus aussi au Québec, on commence à le voir. Tu sais, je sais qu'ici à Lévis, d'ailleurs, tout le centre-ville, là, proche du vieux Lévis, là, il y a quand même un grand désir par la ville qu'il y ait un redéveloppement. Là, tu sais, il y a plein de bâtisses abandonnées, il y a des affaires qui font plus de sens. Là, tu sais.
Mais c'est cool, le point que tu dis. Ça me fait penser, c'est vrai, pareil, que les immeubles des dernières années sont souvent bâtis près. Tu sais, je pense justement encore pas loin du Power Center de Saint-Ro,
ouais,
mais...
Ouais.
Tout ce qui se construit neuf est au bord.
Oui,
soit des stationnements souterrains, des stationnements cachés en arrière.
C'est ça, exactement.
C'est vrai quand même, tu regardes le Jules Dallaire, c'est un peu ça aussi.
Parce que vision urbanistique maintenant, moderne, fait appel à ça, parce qu'on se rend compte que c'est comme plus humain, ça nous donne plus envie d'être là.
C'est moins chaleureux quand tu as un grand stationnement, en plus, tu as un îlot de chaleur.
Ben non, en plus, exactement. C'est une mauvaise utilisation de l'espace, puis alors que la plupart des villes s'en vont vers la densification urbaine, parce que, tu sais, on s'est étalé pendant bien des années, tu sais, les années 70, 80, même 90-2000, c'était des siècles d'étalement urbain. Mais on se rend compte, hey, ça coûte cher de l'étalement urbain. Là. La ville de Québec, puis tu sais, il y a des gens qui sont pro la bombe, contre la bombe, mais on dira ce qu'on voudra. Ça reste que la ville de Québec est extrêmement étalée. Oui. Tu sais, quand tu dis que c'est rendu que le monde quitte la ville de Québec pour aller vivre à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier.
Sainte-Brigitte.
Puis à Sainte-Brigitte-de-Laval. Puis là, on parle de trafic, puis on parle de ci, puis ça. Ben, c'est sûr que ça vient un peu contribuer à tout ce. À tous ces problèmes de la ville, puis de la société, puis de l'urbanisme, qui font pas nécessairement du sens. Là.
Fait qu'il va y avoir des opportunités dans le commercial.
C'est clair.
Tu nous dis.
C'est clair. Là, tu es parti d'ici, toi, tu t'en allais, tu commences
à aller. Je vais retourner d'où j'arrive.
Hey, c'est vraiment intéressant. Merci, Nicolas, pour la chronique. Puis, si on veut plus d'informations, on contacte directement.
Ben écoute, on va voir le Collège MREX, MREX, autant sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Également, il y a le site web d'MREX, www.mrex.co. Et on a aussi notre e-campus. Donc, c'est des cours en ligne accessibles à tous à www.formationenligne-mrex.com.
Good. Merci beaucoup, Nicolas. Passe une belle journée.
This is Gangsta OG Low. And you listen to
CJMD 96.9 Lévis.
Keep it locked, keep it loaded, keep it gangsta, baby.
C'est le temps de rénover. Toiture, porte, fenêtre, pensez DBL. Salle de bain, cuisine, sous-sol, pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Recommandé CAA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant le 418-681-2522. GroupeDBL.com. GroupeDBL.com.
Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nous sommes heureux de vous annoncer qu'après une longue attente, nos copieux déjeuners sont de retour. Que ce soit pour emporter ou en salle à manger, nous vous offrons un environnement sécuritaire. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 4 succursales pour vous servir. Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourgneuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria.
Le Bike Show Alpha Vétéran chez Prémo Harley-Davidson à Québec les 12 et 13 septembre. Sur place, massothérapie gratuite pour les vétérans, cage d'entraînement, zone familiale, compétition pour déterminer la plus belle moto et spectacle de musique métal. Visitez notre site internet alphavétéran.ca et Alpha Vétéran sur Facebook. Le Bike Show Alpha Vétéran le 12 et 13 septembre chez Prémont Harley-Davidson.
La nouvelle gouvernance scolaire, c'est vous?
Moi? Pas certaine que c'est pour moi.
Je suis une femme d'action. J'aime quand les choses sont efficaces, modernes. Je pense que pour prendre les meilleures décisions, il faut être à l'écoute. Il faut travailler ensemble et il ne faut pas hésiter à innover. Surtout quand on parle de notre avenir.
Vous êtes parfaite.
Ben voyons,
La nouvelle gouvernance scolaire, c'est vous. Votre place vous attend. Visitez québec.ca/nouvelle-gouvernance-scolaire. Un message du gouvernement du Québec.
Vous cherchez un emploi? Bimbo Canada a quelques places encore disponibles pour compléter l'équipe. Elle est à la recherche de plusieurs manœuvres à la production pour notre boulangerie Vachon à Sainte-Marie. Le salaire d'entrée est de $21.61 avec prime de quart de travail. Vous avez accès à des possibilités d'avancement, fonds de pension, accès à des assurances collectives. Venez travailler dans un environnement sécuritaire. Un service essentiel du domaine alimentaire ouvert depuis 1923. Pour postuler en ligne, visitez notre page Bimbo Canada Carrière.
Hey, salut la gang, je veux vous parler de Clôture Terrien. Clôture Terrien, c'est une entreprise de Québec avec plus de 15 ans d'expérience qui se spécialise en vente et installation de clôtures de tout genre. Profitez de votre cour avec une clôture offrant intimité et sécurité. Que ce soit pour une clôture en bois, en verre, ornementale, en composite ou en maille de chaîne,
communiquez avec les meilleurs de l'industrie au 418-473-2783-clôtureterrien.com.
Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des galeries Chagnon. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat Smoke Meat!
Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nous sommes heureux de vous annoncer qu'après une longue attente, nos copieux déjeuners sont de retour. Que ce soit pour emporter ou en salle à manger, nous vous offrons un environnement sécuritaire. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 4 succursales pour vous servir, Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourgneuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria.
On est à la bulle immobilière dans nos nouvelles chroniques avec une nouvelle peut-être plus tant que ça. Hein, ça fait déjà notre deuxième saison.
Version, oui.
C'est quand même vraiment cool avec le Real Talk et Nicolas Ray. Une des questions, croissance ou cash flow?
Les deux?
Ouais, c'est ça. Tu peux-tu piquer les deux?
Ouais.
C'est-tu possible? C'était-tu un ou? Et?
C'est quoi?
Et
où?
Ça dépend à qui tu parles. Si tu parles à Thomas Tam, ben lui, il va te dire les deux.
Tu t'en vas où avec ça?
mais tu ris, mais c'est drôle parce que j'ai déjà eu Thomas Tam comme client.
Okay.
C'est surprenant, mais tu sais, le restaurant Thomas Tam, le buffet, il y a vraiment un gars qui s'appelle Thomas Tam.
Ouais.
C'est le fondateur.
Il y a des annonces à un moment donné que ses enfants,
ouais,
et leur équipe, tout.
C'est le fondateur de ça. Puis moi, j'ai entraîné son neveu, son fils a joué au hockey. Mais Thomas, c'est un investisseur immobilier. Très peu de gens savent ça. Mais il y avait plusieurs blocs appartements, d'ailleurs, à Beauport. Puis,
il faisait les deux, lui.
Ouais, lui, il faisait les deux. Lui, Thomas, les buffets, c'est que tu peux tout avoir.
All you can eat.
All you can eat immobilier. Hein, ça pourrait être bon.
C'est
ça,
bon,
ça pourrait être une nouvelle émission.
Un nouveau cours de l'Amérix.
Mais non, face à part, écoute, généralement, en immobilier, il va falloir choisir entre les deux. C'est parce que malheureusement, si tu veux du cash flow, ben quelque part, il faut que ça vienne de quelque chose. Puis généralement, ça vient de ta croissance. Tu viens, si on veut, hypothéquer ta croissance, tu viens essouffler ta croissance pour en retirer plus de cash flow. T'sais, c'est le même dans toute la vie. Les
business aussi.
C'est clair. Là, plus que tu fais pondre des œufs à ta poule, plus que la poule elle va être rendue chétive, puis brûlée, puis elle sera plus bonne pour la viande.
Oui, oui.
C'est pas très scientifique. Je m'y connais absolument rien. Absolument rien
dans les poules.
Dans les poules, là, j'y trouve bien cute. Là, la vérité, c'est que j'aimerais bien ça d'avoir des poules chez nous. Puis ça serait assez drôle. Là.
On en parle à Maxime prochainement.
Ouais. Ben, Maxime est sorti des cochons. Lui.
Ouais.
Mais non, tout ça pour dire que, à quelque part, il y a toujours un. Quand tu choisis un, tu sacrifies l'autre. Puis généralement, les gens pensent à l'immobilier. Tu sais, quand on va dans les magasins de livres, les renombrés de ce monde ou les Archambault, toutes ces choses-là, on voit tous les livres. Tu sais, devenir millionnaire en 80 jours, devenir libre ou indépendant financièrement de l'immobilier. Puis il y a toute cette espèce de culte du rêve de lâcher sa job puis de vivre de ses blocs. Tu sais, c'est souvent ça que les gens... Même si c'est souvent ça qui amène les gens vers l'immobilier. Puis moi, là, j'ai souvent un peu pété la bulle à tout le monde parce que je suis comme... c'est pas vraiment le meilleur investissement pour ça. C'est pas le meilleur classe d'actifs pour ça. L'investissement immobilier multilogement, en fait, faut comprendre qu'il y a quatre manières de créer de la valeur là-dedans. Tu sais, d'avoir comme du rendement ou de la richesse. Il y a le cash flow. Donc, qu'est-ce qui reste au niveau de ton immeuble après les dépenses, après l'hypothèque. Et il y a également la capitalisation. Donc, la partie de l'hypothèque, que c'est du principal. Donc, il y a une partie de l'hypothèque, c'est de l'intérêt. L'autre partie, c'est du principal. L'intérêt, on s'entend, on s'en va à la banque. Le principal t'appartient, mais il liquide. Il y a la partie prise de valeur. L'immeuble prend de la valeur. Tu es dans un marché, ça prend de la valeur. On en a parlé dans une émission passée. Ton multiplicateur de revenus, il a augmenté. Ou ton immeuble a des loyers qui ont augmenté. Et finalement, ben, il y a des avantages au niveau des taxes, au niveau de l'impôt. Tu sais, il y a le concept d'amortissement, c'est-à-dire qu'on peut prendre un amortissement. Il y a le concept de différentes techniques fiscales pour venir reporter l'impôt éventuellement. Il y a des choses qu'on peut faire pour s'avantager fiscalement. Donc, c'est les quatre manières de s'enrichir. Fait que là, quand on parle de cachot puis de croissance versus croissance, c'est comme, ben, le cachot, c'est juste un des quatre composants de ce qui est quoi le rendement en investissement immobilier. Fait que c'est sûr que c'est pas lui qui est le plus puissant. Là. Le
peut-être
plus
gruger puissant. Sur les autres.
Ben oui, puis tu sais, généralement, si tu prends lui, c'est que tu gruges ailleurs. Tu sais, il n'y a rien pour rien dans la vie. Là. En anglais, on dit « there's no free lunch ». Il n'y a pas de lunch gratuit, là. À moins, ben, il y a certaines personnes qui aiment ça voler le lunch des autres. Mais en investissement immobilier, il n'y a pas de free lunch, ça n'existe pas. Fait que si tu veux du cash flow, tu vas imputer ta capitalisation. Tu vas probablement imputer aussi ta prise de valeur. Parce que tu as moins d'argent pour investir dans des immeubles, parce que tu prends plus d'argent pour toi. Si tu as moins d'argent aussi, si tu prends plus d'argent pour toi en cash flow, ben ça veut dire que tu dois commencer à réduire un peu ton levier. Tu réduis aussi la quantité d'argent que tu réinvestis, soit en levier ou soit en réparation. Ce qui veut dire que tu ralentis également ta croissance. Parce que pour n'importe qui se rappelle, tu sais, les tableaux de rendement simple versus rendement croisé, je sais pas si vous avez déjà vu ça, là. Mm-hmm. Tu sais, quand tu prends une scène noire, là.
Il y en a un qui pique.
Ouais, c'est ça. Si la scène noire, tu y fais faire un rendement simple, comme après 30 jours, elle vaut, je sais pas moi, elle vaut
50 sous.
10 piastres, là, ou même ouais. Pas, là, 5 piastres. Mais avec un rendement composé, ben, après 30 jours, elle pourrait, fictivement ou théoriquement, valoir comme 50 millions, là, tu sais. Ben, c'est un peu le même concept en immobilier multilogement. Le rendement de l'immobilier multilogement, c'est un rendement simple si tu ne crées pas activement un rendement composé. Puis un rendement composé, c'est quoi? C'est on veut générer du rendement sur le rendement qu'on a généré. T'sais? Fait que ça veut dire qu'on veut continuellement réinvestir. Ben, si on prend du cash flow, puis qu'on prend plus de cash flow, ben, on s'entend-tu que c'est de l'argent que tu réinvestis pas? Donc, tu ne génères pas du rendement sur du rendement parce que à la place de faire ça, tu prends du rendement pour aller t'acheter consommer. Un bateau, consommer, ouais. Aller à Orlando avec ta blonde chez Disney World.
Exact.
Puis aller faire plein de choses super cool. Hein. Ouais. Je dis pas le contraire. Mais c'est sûr que tu viens attaquer ta croissance. Et moi, ce que j'aime beaucoup amener les gens à faire, puis j'inviterais tous les gens qui écoutent en ce moment à aller sur le site d'MREX, dans la section blog, il y a un article où on a écrit sur comment atteindre ou calculer son indépendance financière à travers les blocs appartements. C'est un de nos professeurs, Philippe Foisy, qui est actuaire et
une machine
en ingénierie financière, qui a écrit l'article. Là, c'est vraiment sa coche. Je vous invite à aller le lire. Là. Mais ultimement, moi, j'essaie d'emmener tout le monde à comme voir ça à l'envers. C'est-à-dire que le cash flow, réellement, là, il devrait être une fonction de ta valeur nette. Tu sais, parce qu'on parle souvent de cash on cash, donc de surplus de trésorerie divisé par l'équité que tu as dans une propriété. Tu sais, puis là, le monde va dire, ah, ben, ça génère un cash on cash de 5%. Fait que si tu mets 100 000 à mise de fonds, ça veut dire que tu as un dividende de 5 000 par année. Ben, si on dit que toute chose étant égale, dans le monde des placements, que ce soit l'immobilier, la bourse, les titres, n'importe quoi, tu sais, généralement, là, une dividende, tu peux t'attendre à du 2 à 5 à 8. Gros max. Tu sais, du 8 à 10% de dividendes, là, c'est tough à trouver. À moins que tu fais des affaires au risque, tu investis dans de la dette au risque ou des choses comme ça. Fait que, mettons, on dit que c'est 5%, le chiffre magique. Ben, tu devrais aller à l'envers puis te dire, je me concentre sur augmenter ma valeur nette pour qu'elle soit assez élevée pour que 5% de ma valeur nette me donne assez de cash flow pour être libre, pour vivre, pour remplacer ma job.
Dans ce cas-ci, c'est comme si on disait la valeur, mais c'est toujours ça, mais la valeur nette, c'est comme l'addition de tes équités sur tes immeubles.
C'est ça, exactement, exactement. Fait que si on comprend ça, on comprend que ben il ne faut pas qu'on se concentre sur le cash flow les premières années. Tu sais, les premières 5 à 10 années dans l'immobilier multilogement, tu ne devrais pas te concentrer sur ton cash flow. Ton cash flow, là, il devrait être kiff-kiff. Tu devrais arriver à zéro, comme ça, tu n'as rien à sortir de tes poches, parce que ça veut dire que tu maximises ce que tu réinvestis, et donc tu maximises la capacité de générer du rendement sur du rendement, puis de générer du rendement sur ce rendement-là. Puis là, on a un vrai effet, si on veut, de boule de neige, ou qu'on est en train de créer de la valeur. Puis une fois que tu as atteint là, ton cash flow, là, une fois que tu as atteint ton 2 millions de valeur, par exemple, si tu dis que tu as besoin de 100 000 pour vivre, ben écoute, 5 %, ce qui est très normal, très faisable d'un bloc appartement, d'avoir un cash en cash de 5 %, ben 5 %, si tu as 2 millions de valeur nette investie dans tes immeubles, parce que tu as créé de l'équité au fil du temps en faisant des optimisations, en réinvestissant, en sortant ta mise de fonds puis en rachetant dans l'autre bloc, puis au fur et à mesure que le temps avance, ben là, t'es parti de 100 000 ou 200 000 de mise de fonds à maintenant, t'es rendu dans 10, 12, 13, 15 ans. Peut-être avant, si t'es vraiment bon, t'es vraiment agressif. T'es rendu à 2 millions de valeur nette. Ben, 2 millions de valeur nette, à 5 % de cash en cash, ça fait 100 000 par année. Puis le voilà, tu l'as.
Le voilà ton indépendance financière.
C'est ça. Si, exemple, t'as juste 200 000 de mise de fonds, ben, même si, mettons, là, tu réussis à avoir du 10 % de cash en cash, ce qui est faramineux, là. 10 % là, on parle de 20 000. 20 000, là, c'est insignifiant. Il n'y a personne qui va lâcher sa job pour 20 000 par année de cash flow. Là. Mettons que tu réussis à aller chercher du 20 % de cash en cash. Mais 20 % de cash en cash, ça veut dire que tu prends des affaires
risquées.
Très, très risquées. Puis tu peux oublier, là. C'est sûr que tu n'as plus de prise de valeur, tu n'as plus de capitalisation, tu n'as probablement plus d'avantages fiscaux. Fait que ça veut dire que, oh, là, tu as 40 000 sur ton 200 000. Il y en a certains qui vont dire, ben, moi, je serais heureux avec ça. Ben, tant mieux, là. Moi, personnellement, je serais pas heureux avec ça, puis je pourrais pas vivre avec ça. Mais, tout ça pour démontrer que c'est une erreur de penser en termes de cash flow plutôt que de penser en termes de croissance. On veut de la croissance. L'immobilier multilogement, c'est un véhicule de création de valeur, donc de croissance. Secondairement à ça, c'est un véhicule qui peut générer des cash flows intéressants. Donc, commence par créer ta croissance. C'est commence par générer pour aller croître ta valeur nette. Puis après ça, ben, tu te concentreras sur devenir libre ou indépendant financièrement. Je sais que ça ne vendra pas bien mal de livres, ce que je suis en train de dire là, mais on est à Real Talk. Ouais, on encore liste de vendre des livres.
Mais, puis tu sais, on fait ce type d'investissement-là aussi sur le développement de business de monsieur, madame, tout le monde qui va partir en affaires. Tu sais, ça va être un des sacrifices qu'il va faire, ça va être son cash flow qu'il va toujours réinjecter dans sa business pour s'assurer d'avoir une croissance dans son entreprise.
C'est toujours vrai.
C'est comme le local business. Il n'y a personne qui prend une business, puis le jour 1... mon Dieu, il roule sur l'or, puis en ouais donc, le cachot va bien. Ben, écoute, s'il y en a, tant mieux pour vous.
Ceux que ça arrive, on entend parler dans les nouvelles, dans les journaux à Séville.
Il n'y en a pas de tonne.
Notre équipe là, est en fonction depuis 2015. Puis l'analyse que j'ai de mon cash flow maintenant, je le fais 5 ans plus tard.
Ouais.
Tu sais, à savoir à quel endroit que mon cash flow, avoir mon analyse sur une année, puis de mieux contrôler mes investissements que je vais faire pour mon développement puis ma croissance. Mais les premières années, j'étais pas à calculer mon cash flow. Là. J'étais juste à réinjecter pour produire une croissance dans ma business. Mais en ayant cette analyse-là, mais ça fait en sorte qu'on arrive beaucoup plus performant. Puis
c'est clair.
Avec la MREX, vous permettez aussi de développer ces connaissances-là pour, dès le jour 1, d'avoir une vue globale de votre investissement puis de savoir à quel niveau vous allez pouvoir vous y rendre. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi. Oui, là.
Parce que l'investisseur immobilier, mettons, moyen... Le moment où ça le frappe, la dualité, croissance ou cash flow, c'est au refinancement la plupart du temps. Tu sais, je refinance, on dit, on passe go, on réclame 200$, tu sors de chez le notaire, tu retrouves 100, 200 000, c'est là que tu es face à, OK, je prends-tu 50 pour respirer, puis revenir, puis payer des dettes, puis avoir du fun.
Payer un bateau, un sidou.
Exact. Ou je pars dans un prochain projet.
Tu sais, tu prends cet exemple-là, la question du refinancement. Mettons que tu refinances dans 5 ans, puis tu as un mouton d'argent qui est là. Puis au lieu de le prendre pour réinvestir puis acheter l'autre bloc, tu le prends pour ta vie. Bien là, tu viens de perdre un des 4 créateurs de rendement en immobilier multilogement, le 4e, la fiscalité. c'est pas avantageux fiscalement de le faire. Parce que là, là, t'es pas en train de reprendre cet argent-là pour réinvestir, t'es en train de le sortir pour dépenser, pour vivre. Tu vas être imposé au gros taux. Puis tu viens.
En plus de brûler tes trois autres rendements que t'as accumulés
ben oui, c'est ça.
Les dernières années.
En plus de dire bye aux trois autres rendements. Là,
fait qu'il y a plusieurs subtilités dans l'investissement immobilier, puis c'est pas toujours évident à décider vers où qu'on s'en va dans l'ensemble de notre parcours. Puis l'AMREC sont là pour vous aider à vous orienter dans tout ça. Comment on fait, Nicolas, pour avoir plus d'informations?
Site web l'AMREC, www.mrex.co, sinon page Facebook.